Brian, il est on. Ben, le micro est on. Brian, il est à peu près à 70 %. C'est bon.
Un, deux.
Tu vois qu'on, tu vois qu'il joue de la drum, hein?
Ouais.
Il y a du,
un, deux.
Du beat.
Un, deux, un, deux.
Parfait comme ça.
Source. Non, c'est un, hein, j'oublie à chaque fois. Ah. Voyons, je pèse Enter, puis ça... OK. Je sais pas. Étienne! Il est branché, il est pas branché. Il est pas branché. Ah! Ah là là, je te dis que, ouais, une chance que la grâce est là, hein? La vieillesse, bon, ok, super. Tournez avec moi dans Jean 1. L'Évangile de Jean. Chapitre 1. On est en train de regarder l'identité de Jésus depuis plusieurs mois, là. Hein? Puis on est rendu à Jésus, la parole de Dieu. Donc, j'aimerais lire avec vous les 9 premiers versets. Ben tiens, y a-tu quelqu'un qui voudrait lire pour moi? Jean 1, les 9 premiers versets. Bien fort. Merci beaucoup, Laurence. Prions. Oui, Père, Créateur souverain du ciel et de la terre, notre Dieu, béni soit ton nom pour ce temps merveilleux que nous pouvons passer en ta présence glorieuse, en présence de ta parole, et transporté par ton esprit devant ton trône de grâce, Seigneur. Nous réclamons ton aide ce matin pour bien saisir le message que tu veux nous donner, Seigneur. On repousse en ton nom, Seigneur Jésus, toutes les autres voix que la tienne. On veut t'entendre parler, toi seul, Seigneur Jésus. Nous sommes à tes pieds, à l'écoute. Sois une muraille de feu autour de nous et notre gloire au milieu de nous. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Amen. Donc, la lumière est essentielle à notre existence. Existence physique sur la terre, survie personnelle également. Qui de vous a déjà tenté de traverser une forêt à la noirceur totale? Oui, Laurence, comment ça s'est passé?
J'avais peur, j'ai couru vite.
OK. Est-ce que tu t'es enfargé?
Non. Ben, j'ai glissé, en fait.
T'as glissé.
C'était mouillé.
OK.
Mais c'était pas vraiment, ben, c'était une forêt, mais c'était plus des escaliers, c'était au camp musical.
OK.
Et du séminaire jusqu'au camp musical, fait qu'il y avait comme 200 marches à,
okay.
à monter.
À noirceur.
À noirceur, puis c'était glissant.
OK. Ben, est-ce que tu connaissais les lieux un peu?
Ben,
un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui serait game de traverser l'Amazonie en noirceur totale, sans lampe frontale, de lever la main? Moi, avec ma petite expérience de randonnée en montagne, quand j'étais jeune, puis avec mes enfants plus vieux, je me dépêchais toujours d'arriver avant la noirceur pour installer la tente et s'installer pour la nuit, là, parce que Avoir vécu l'expérience d'arriver après la tombée du jour, c'est pas le fun, non. Tu cherches tes affaires, puis c'est vraiment quatre fois plus difficile, sans parler des racines, des roches, des branches d'arbres et des ours. Notre existence spirituelle en tant que race humaine et notre survie personnelle dépendent également d'une lumière. Quelle lumière? Et qu'est-ce qu'on entend par les ténèbres? C'est ce qu'on va regarder ce matin. Donc, à date, ce qu'on a vu, c'est que la parole de Dieu est éternelle. C'est ce qu'on a vu la semaine passée, d'existence avant la création du monde. On a vu qu'il est divin. La parole était Dieu. Il est Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Il est divin. Il est le Créateur, l'unique. Et c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Et ce matin, on va poursuivre avec « Il est vivant » et « Il est clair, il est vainqueur des ténèbres ». On nous déclare ici que la parole avait la vie en elle, au verset 4. « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes ». Fait que j'aimerais considérer trois choses avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que les ténèbres? De quelle façon la vie de Jésus est la lumière et la réaction à cette lumière? Donc, qu'est-ce que les ténèbres? La semaine dernière, nous avons vu que la parole existait avant l'univers physique qui nous entoure. La matière ne peut pas produire l'information nécessaire à la vie. C'est la parole, une entité en dehors de l'univers qui donne naissance à la matière, qui l'organise selon les lois précises et qui fournit toutes les informations nécessaires pour organiser cette matière-là en différentes formes de vie. C'est drôle parce que lundi matin à mon bureau, je rencontrais un monsieur qui était anciennement un professeur. C'est quoi ça fait ça, là, Robert? Tu sais pas, sais-tu pourquoi? C'est mon pacemaker. Hein? C'est Étienne? Ah, il essaie de nous bousiller. Tout est la faute d'Étienne. OK. J'avais un rendez-vous, ben, c'est-à-dire que lui, il avait rendez-vous avec moi. Un ancien professeur de génie électrique dans une université. Puis, c'est venu, je ne sais pas comment, sur un sujet de choses comme spirituelles. Puis, j'étais primé avec le message de la semaine passée. Là j'ai vraiment là, apporté beaucoup d'arguments que je pense qu'il n'avait jamais entendus. Mais c'était amical. Et puis, à un moment donné, il dit, ouais, les philosophes, il dit, ils n'ont pas vraiment trouvé la solution là, à l'origine de... Ben, j'ai dit, c'est normal, j'ai dit, parce qu'on se bute toujours contre la même question. Hein? Qu'est-ce qui a causé ça? Vous êtes d'accord avec moi que tout a une cause dans l'univers dans lequel on vit? Il dit, oui, c'est un physicien. Tout a une cause. Donc, on cherche toujours, c'est quoi qui a causé ça? C'est quoi qui a causé ça? C'est quoi qui a causé ça? Puis on finit plus, on se bute toujours avec l'inconnu de qu'est-ce qui a causé ça. Donc, ça montre qu'il fallait que ça ait une cause extérieure à l'univers pour mettre l'univers en branle. Il dit oui. En tout cas, j'ai eu un très bon temps avec lui. On a vu comment nous, les êtres humains, nous reconnaissons facilement l'œuvre humaine dans l'archéologie. Hein, j'ai parlé de venir devant des pierres qui sont enlignées, qui sont debout, et puis qu'on dit, bien, évidemment, c'est quelqu'un qui a fait ça. Ce n'est pas arrivé par hasard. Pourquoi? Parce qu'il y a une organisation, il y a une structure, il y a une créativité, il y a de l'information qui est communiquée à travers ça. On est capable de reconnaître, ah, ça a été fait de main d'homme, ça. On reconnaît ça dans l'archéologie, on reconnaît ça dans la technologie. Il n'y a personne qui va dire que même après des milliards d'années, qu'un ordinateur portable comme ça puisse venir en existence. Hein? On dit que c'est l'œuvre d'une race intelligente. C'est l'œuvre de quelqu'un, là. Il y a une intelligence derrière ça. C'est ce que j'avais dit au prof aussi. Et les êtres humains, on est experts à dire, OK, ça, c'est vraiment là, quelque chose qui a été fait de main d'homme et d'une intelligence derrière ça. Mais lorsque l'être humain, devant les œuvres de Dieu, c'est comme s'il y a un voile. C'est comme si l'être humain ne voit pas que la structure extraordinaire de la cellule. Je disais au professeur, j'ai dit, savez-vous que quand Darwin a élaboré sa théorie sur l'évolution, la cellule, c'était un parfait inconnu, la cellule. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de la cellule? Il ne savait pas. Il savait qu'il y avait des cellules, mais aujourd'hui, là, on sait que dans la cellule, c'est plus complexe que l'usine la plus complexe au monde. Au monde. Là, il y a une chaîne de production, il y a plusieurs petits moteurs qui travaillent en unison. Il y a une organisation extraordinaire. Il n'y a pas une usine au monde qui est complexe comme ça. Comment ça se peut là, que ça arrive tout seul? Impossible. C'est impossible. Et Paul, on a regardé la semaine passée que les êtres humains, en fait, refusent de reconnaître. Ils sont experts à reconnaître l'œuvre humaine, mais ils refusent de reconnaître l'œuvre divine dans la nature. Et Paul dit ceci, « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. » Il y a une autre version qui le rend, « Ils prennent la vérité captive, séquestrent. » Vous savez, quand on séquestre un enfant, là, on le prend, on le met hein, dans un placard, puis on le séquestre, c'est criminel. Mais Paul, il dit, c'est ce que les êtres humains font avec la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Et là, Paul nous explique que ce refus de reconnaître le Créateur de l'univers et de l'honorer, qu'est-ce que ça va produire? Où cette décision de se détourner de Dieu va conduire la race humaine? Dans Romains 1. Donc, si vous avez toujours votre Bible, vous pouvez suivre avec moi. Ici, ce qu'on vient de voir. Parce que Paul, il dit, « Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans les raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. » Ça veut dire quoi, obscurcie? Dans les ténèbres. C'est dans les ténèbres, c'est le verset 21 de Romains 1. Fait que gardez une doigt dans Jean 1, puis on va juste étudier un peu Romains 1. Les ténèbres. En fait, les ténèbres, c'est juste l'absence de lumière. Vous savez, là? Oui, vas-y.
C'est
Oui.
La lumière est la vie.
Oui.
Et si la lumière n'est pas, c'est donc l'obscurité
ouais.
qui nous empêche d'avoir accès.
Absolument. Oui. Mais physiquement, là, physiquement, dans le monde physique, et après ça, on prend ça et on l'applique au spirituel, les ténèbres, ça n'existe pas finalement. C'est le manque de lumière, les ténèbres. Ce n'est pas une entité en soi, c'est juste le degré plus ou moins sévère, si on veut, de manque de lumière, ou plus ou moins intense de manque de lumière. C'est comme le froid n'existe pas, le froid c'est le manque de chaleur. Le froid existe parce que la chaleur existe. Et les ténèbres existent simplement parce que la lumière existe. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et le froid, c'est l'absence de chaleur, c'est tout. C'est prouvé physiquement. Dès qu'on se détourne de la lumière, c'est les ténèbres qui débutent. Et spirituellement, c'est la même chose. Dès qu'on se détourne de la lumière, c'est les ténèbres qui débutent et on s'égare. L'homme est foncièrement un adorateur. Avez-vous déjà pensé à ça? Son âme est perpétuellement à la recherche de quelque chose de plus grand que lui pour le combler, pour lui fournir son identité ainsi que sa sécurité. Paul nous décrit ici comment, à travers les époques, les êtres humains ont cherché ces trois choses de toutes sortes de façons. Ils se sont d'abord tournés vers les idoles physiques, les statuettes, ensuite envers l'adoration de la nature, des animaux divers, le soleil, les astres, etc. De tous les temps, l'homme cherche son identité dans son travail, dans sa profession, dans ses loisirs, dans ses passions, dans son attirance envers un sexe ou l'autre. Mais la Bible nous dit que toutes ces choses sont vaines et nous laissent vides. L'être humain qui s'est détourné de Dieu finit par se croire lui-même maître de son destin et se conçoit comme un Dieu. Et alors, tout est permis. Et c'est ce que nous voyons dans ce passage. Paul nous décrit ici une sorte de spirale vers le bas, une sorte de descente aux enfers de la race humaine qui débute, comme on a vu la semaine passée, par le refus de reconnaître qui est Dieu et de l'honorer. Donc, on voit ici qu'à la fin de ce passage, on a des pratiques contre nature, on a ensuite toutes sortes d'espèces d'injustices, de méchanceté, de cupidité, de malice, etc. Et ça, il fait toute une liste. Les ténèbres. Ce sont ça, les ténèbres. Et nous vivons dans un monde de ténèbres. Du temps du prophète Ésaïe, le peuple de Dieu s'était profondément détourné de celui, de Dieu. Et voici la description qu'en fait le prophète de leur situation dans Ésaïe 8. Ésaïe dit, « On traversera le pays pressé et affamé, et il arrivera sous l'effet de la faim, qu'exaspéré, on maudira son roi, on maudira son Dieu. Levant les yeux en haut, puis regardant la terre, on n'y trouvera que détresse, obscurité, ténèbres de l'angoisse, et on sera poussé dans la nuit la plus noire. » Wow! C'est la description que Dieu a donnée à Ésaïe d'un peuple qui s'est profondément détourné de Dieu. Et ça conduit où? Ça conduit dans l'obscurité, les ténèbres de l'angoisse et dans la nuit la plus noire. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir deux réactions à cette vérité-là. La première, c'est « Ah, bien, gars, sont comme, gars, ces païens-là, sont, gars, comment ils sont détournés de Dieu, puis regarde ce qu'ils font, puis da-da-da-da-da-da. » Puis, se sentir privilégié, merveilleux, « Moi, je suis un enfant de la lumière. » Je ne pense pas que c'est ça la réaction que Dieu veut dans notre cœur, vrai sœur. Cette sévérité-là devrait nous pousser à pleurer. À pleurer et à implorer le Dieu de grâce et de miséricorde, de faire grâce aux gens autour de nous. Et que sa vie et sa lumière coulent en nous. Voilà les ténèbres. Se détourner de Dieu, se tourner vers autre chose pour tenter d'y trouver ma prospérité, mon identité, ma sécurité. Et pensez pas que c'est parce que je suis sauvé, que je connais le Seigneur Jésus, que je ne continue pas de faire ça. On continue, frères et sœurs, à essayer de trouver notre prospérité, notre sécurité, notre identité en autre chose que Dieu. Parce que la nature humaine, nous l'avons encore avec nous, et elle tend à faire ça, tout le temps. Je pense que c'est C.S. Lewis qui a dit que le cœur humain, c'est une usine qui fabrique les idoles. C'est une usine à produire les idoles. Mais lorsqu'on se détourne de Dieu pour se tourner vers autre chose, c'est là qu'on traverse la vie comme un désert dans la faim et la soif de l'âme, et poussé par l'angoisse. On peut venir qu'à tenir Dieu responsable de tous nos maux, et on le maudit, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit chez les gens et c'est ce qu'on voit dans notre cœur. C'est qu'ayant s'étant détourné de Dieu, s'étant tourné vers autre chose pour nous combler, pour nous rendre sécures et nous donner une identité et tout ça, c'est que là, quand ça ne marche pas, on blâme qui? C'est la perversité du cœur humain. C'est à ce point-là pervers qu'on tient Dieu responsable de nous, notre détournement et de nos fausses routes. Puis ce matin, je vous pose une question difficile. Je la pose à moi-même en même temps. Est-ce que tu es en train de chercher de combler ta vie ailleurs qu'en Dieu? Est-ce que tu recherches ton identité ailleurs qu'en lui? Ta sécurité dans tes avoirs ou tes relations? Ta vie ressemble à quoi actuellement? Est-ce que tu as l'impression de traverser un désert, l'âme assoiffée et l'amertume dans le cœur par rapport au malheur que tu vis? Es-tu venu même en vouloir à Dieu? Se pourrait-il que sans t'en rendre compte, tu te retrouves actuellement dans les ténèbres? Jésus dit dans Matthieu 6 de ne pas amasser des richesses sur la terre qui se dégradent, qui peuvent se faire voler, mais d'amasser plutôt des trésors dans le ciel. Car, dit-il, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il poursuit en disant que les yeux sont la lampe du corps. Et si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans quoi? L'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, nous dit Jésus, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Ici, il parle des yeux spirituels, Jésus. Il n'est pas en train de parler de yeux physiques. Il est en train de parler de yeux spirituels. Et les yeux, on s'en sert pour faire quoi? Pour regarder? Hein? Pour examiner? Pour se diriger? Et pour fixer quelque chose qui attire notre attention. On va regarder, on ne regardera pas quelque chose de qui nous dégoûte longtemps, là. Hein? On va regarder quelque chose qui nous attire, quelque chose qui nous intéresse. On les utilise pour regarder, pour considérer. On fixe nos yeux sur ce qui nous semble important ou désirable. Et c'est là que Jésus dit, fais attention à ce que tu regardes. Les yeux de ton âme, ils fixent quoi actuellement? Si tu fixes tes yeux sur les richesses, ton cœur, dit Jésus, sera dans les ténèbres. Il y a plusieurs formes de richesses. Et ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas fixer les yeux sur les richesses puis les convoiter. Mais il n'y a pas juste les richesses physiques comme l'argent et les possessions. On peut convoiter des richesses autres comme des relations. comme avoir un statut dans la société. Ça représente une richesse. Alors Jésus dit que si nos yeux sont sur des choses comme ça, au lieu d'être sur les choses de Dieu, ça nous plonge dans les ténèbres. Et là, on revient à Ésaïe. Tantôt, Ésaïe continue. Mais il n'y aura pas pour toujours des ténèbres sur ce pays envahi par l'angoisse. Si dans le temps passé, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays, le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitent le pays dominé par d'épaisses ténèbres, car pour nous un enfant est né, un fils est donné, il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Ce qui nous ramène à la déclaration de Jean par rapport à la parole, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, qu'est-ce que les ténèbres? On a décrit les ténèbres, la parole de Dieu nous décrit les ténèbres comme étant simplement l'absence de lumière et les ténèbres spirituelles, le fait que l'être humain s'est détourné de Dieu et s'en va à l'opposé de Dieu. Et on se demande pourquoi ça va si mal dans la société. Maintenant, de quelle façon la vie de Jésus est la lumière? Qu'est-ce que Jean veut dire par la vie? En elle était la vie. Est-ce qu'il parle ici de la vie physique? En elle était la vie? Non, parce que dans le contexte de Jean 1, si vous retournez dans Jean 1 avec moi, je vous avais dit de garder un doigt, il est probablement bleu là, rendu là. Hein? On revient à Jean 1. C'est notre texte de base. La parole était au début, était avec Dieu, elle était Dieu, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. On n'est pas arrivé encore à l'incarnation ici, là. L'incarnation vient au verset 14. OK? Fait que de quelle vie il parle? Il ne parle pas de la vie physique. Il parle de la vie spirituelle. Qui était en Jésus dès avant sa naissance et qui a continué après. Et cette vie-là, Jean nous dit qu'elle est la lumière des hommes. La vie de Dieu, la vie du Saint-Esprit en Jésus. Comment cette vie peut-elle être la lumière? Bien, on vient de décrire c'est quoi les ténèbres. Une vie assoiffée. Une vie de contradiction morale, de futilité, d'égocentrisme qui découle d'un refus de reconnaître Dieu et de l'honorer. C'est ça les ténèbres. La vie de Jésus, c'est le contraire. Et c'est pour ça que c'est la lumière. Vous voyez? La vie de Jésus est la lumière parce que, premièrement, la vie de Jésus-Christ en est une de communion avec Dieu. À l'opposé de la séparation d'avec Dieu. La vie de Jésus, la vie qu'elle a vécue sur la terre, était en constante intimité avec son Créateur. Une vie remplie de reconnaissance et d'honneur pour la personne qui est notre Dieu et pour toutes les bontés qu'il déverse sur nous. C'est ce que nous voyons chez Jésus. C'est le contraire de ce qui se passe dans le monde. Intimité avec Dieu, reconnaissance envers Dieu, honneur pour Dieu. On parle ici d'une vie intérieure. Sa vie intérieure, sa relation avec le Père. Toute sa vie était tournée vers le Père. Sa vie était vécue sous le regard de Dieu. Toute sa vie, sous le regard de Dieu. Une vie qui baigne dans les rayons du soleil qui émane de la face de Dieu et qui se réjouit en lui constamment. C'est ça, la lumière qui émanait de Jésus, une vie d'intimité avec Dieu. Jésus lorsqu'il a commencé son ministère, la première chose qui se passe, c'est quoi? Il sort des eaux. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tout de suite, l'Esprit le conduisit où? Dans le désert. Pourquoi? Il y avait un temps d'intimité avec Dieu, là. Oui, il a été tenté après, mais c'est à la fin, là. C'est qu'à la fin des 40 jours qu'il a été tenté. Il n'a pas été tenté tout ce temps-là. Fait qu'est-ce qu'il a fait dans le désert? Il a regardé les cactus puis les lézards? Non. Bien, peut-être, mais c'était par rapport à contempler les merveilles de Dieu. Il y avait une intimité avec Dieu. C'est la première chose qui fait. L'Esprit le pousse dans le désert pour avoir un temps d'intimité avec Dieu. As-tu un temps d'intimité avec Dieu? C'est ce qui constitue la lumière dans la vie de Jésus. C'était son intimité avec le Père. La vie de l'Esprit. Jésus, après ça, se retirait souvent pour prier, hein? Pour passer des longs moments dans la présence glorieuse de Dieu le Père. Souvent. Et ça fournissait sa vie. Ça alimentait sa vie. C'était le moteur derrière sa vie. On se demande pourquoi on n'a pas de puissance. On se demande pourquoi s'il ne se passe rien. Est-ce qu'on passe du temps dans la présence glorieuse de Dieu? Oui ou non? Et à quel degré? Et est-ce que je suis satisfait de mon petit 15 minutes le matin? La prière, souvent, ça a été mon cas, je trouvais ça lourd. Je trouvais ça ardu, je trouvais ça tannant. Prier, puis demander des choses à Dieu, puis là, ça devient répétitif, puis ça devient tannant, puis c'est pour ça qu'on ne prie pas. C'est pas ça, la prière. J'ai découvert que la prière, c'est de se tenir dans la présence glorieuse de Dieu, puis de l'adorer, puis de recevoir de lui ce qu'il veut me donner. Et savez-vous quoi? C'est extraordinaire, la prière. Et oui, je vais lui parler de mes besoins. Oui, je vais intercéder pour d'autres personnes, mais après, puis même en faisant ça, c'est dans la présence glorieuse de Dieu que je me tiens. J'apprends à faire ça. C'est ça, la lumière. Pensez-y. Le contraire, c'est de marcher sans Dieu. Ça, c'est les ténèbres. La lumière, c'est quoi? C'est de marcher en présence de Dieu, en communion avec lui, en intimité avec lui. C'est la base de la vie chrétienne, l'intimité avec Dieu. Amen. Et des problèmes spirituels ou émotionnels peuvent nous empêcher d'aller vers l'intimité avec Dieu. J'ai bien dit spirituel et émotionnel. Il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui n'ont pas d'intimité avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont des blessures dans le cœur, puis ils ont peur de l'intimité. Soit qu'ils ont été rejetés, soit qu'ils ont été abandonnés, soit qu'ils ont vécu l'abus, soit qu'ils ont vécu la pression. Toutes sortes de raisons. Et j'aime Jésus, mais ne demande-moi pas de m'approcher d'avoir une communion intime avec lui cœur à cœur, parce que c'est impossible. Mais c'est la base de la vie chrétienne. C'est la base, l'intimité avec Dieu. Regardez la vie de Jésus. Nous sommes les disciples de qui? De Jésus. S'il y a un point que je peux dire que dans ma vie, j'ai lutté le plus avec la vie de Jésus, c'est ça. C'est vraiment ça. Le fait qu'il se retirait souvent puis qu'il priait, que je trouvais ça. Ouf! Tannant! Je ne peux pas concevoir faire ça, là. Ça, c'était bon pour lui, mais ce n'est pas bon pour moi. Ah non? OK. Fait que tu es disciple de qui, dans le fond? Tu es disciple de qui? Jésus, il faisait tout ça juste pour lui-même ou pour nous donner un enseignement également? Toute sa vie, c'est un enseignement. Jésus déclarait qu'il écoutait ce que le Père lui disait de dire et de faire, et qu'il s'en tenait à dire et à faire que ça. Wow! C'est l'intimité avec le Père total, constant, là. Jésus se promenait sur terre, l'oreille tendue comme ça, tout le temps, l'oreille de son cœur, l'oreille tendue sur les cieux, on prend une image, pour écouter ce que Dieu voulait lui dire, de dire et de faire, et qu'il s'en tenait à ça. Est-ce que c'est ton cas? Non? Bien, la première chose, c'est de se poser la question, est-ce que je tends l'oreille à Dieu? Ou est-ce que je me satisfais de lire un passage de la Bible là, le matin, puis j'ai appris des bonnes choses, puis c'est cool, puis c'est beau, puis mais je ne me suis pas attardé à savoir, Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Et Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire ce midi? Et Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire ce soir? Moi, je vous avoue que j'ai commencé à grandir vraiment en tant que chrétien quand j'ai commencé à mettre un temps à part avec Dieu le matin. J'ai commencé là et j'ai vraiment vu la différence. Mais là, depuis des années, je suis satisfait avec ça. Ben oui, je prends 45 minutes, une heure par matin. C'est bon. Hein? Mais sais-tu quoi? Je me rends compte que sur l'heure du midi, là, je suis obligé de dire, mais c'est quoi que tu m'as dit ce matin, Seigneur? J'ai complètement oublié. Pourtant, il m'a parlé, là. Il m'a parlé. À travers les paroles, la parole et l'esprit, il m'a parlé. Complètement oublié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, j'étais en communion là avec Dieu, mais à quelque part, entre 8 heures et midi, plus en communion avec Dieu. Alors, vous allez dire, mais Brian, c'est impossible, c'est ce que tu nous demandes là. C'est pas moi qui le demande. Oui, c'est impossible. Seulement possible par la vie de l'Esprit en nous, frères et sœurs. Et on est tous en cheminement là-dedans. Il n'y a personne qui est arrivé. Il y a juste Jésus-Christ qui a réussi à faire ça à 100% tout le temps. Mais il nous donne un exemple. Jésus a déclaré qu'il faisait toujours la volonté du Père. Il était venu pour accomplir sa mission. Quelle mission tu as accomplie en ce moment? Si quelqu'un, un observateur là, neutre, là, on ne parle pas dans l'Église, on ne parle pas... Quelqu'un neutre, il regarde ta vie, examine ta vie, puis on lui demande, c'est quoi la mission de cette personne là, sur la terre? Qu'est-ce qu'il écrirait comme réponse? C'est quoi sa mission là, dans la vie? Là? Et là, elle existe pourquoi? Là? Ce serait quoi sa réponse? Donc, la vie de Jésus est la lumière par le fait qu'il était en relation intime, constante avec le Père dans sa vie intérieure, ce qui l'animait, le comblait, lui donnait son identité et sa sécurité, c'était cette relation-là. Et c'est cette vie qui coulait de lui, qui suintait de lui, ça se voyait, ça se ressentait, c'était palpable, c'était sa personne. Dernièrement, ma sœur Jacqueline m'a prêté un livre, le Sadhu Sundar Singh. OK, tout le monde dit ça trois fois en ligne. Non. Le Sadhu Sundar Singh. Le Sadhu, c'est un jeune homme qui a vécu il y a à peu près un an, 100 ans, qui en Inde, qui était Sikh, qui est ce Sikh, là, la religion Sikh, c'est comme un peu un mélange entre l'hindouisme, puis le bouddhisme, puis l'islam. Puis, il a été rencontré par le Christ vivant. Il a donné sa vie à Christ. Il a été sauvé par Jésus-Christ. Et il a décidé de devenir un homme saint. Les hommes saints, en guillemets, là, en Inde, c'est des sadhus. Okay, il y a d'autres mots aussi pour ça, là, mais dans cette partie-là de l'Inde, c'est des sadhus. Ils portent une longue robe là, orange ocre, puis ils se retirent de la société pour contempler, pour méditer. Mais bon, c'est des hindous. Mais lui, il a décidé de faire ça, mais en étant chrétien. Et c'était vraiment, pour moi, là, je n'ai pas fini de lire, Mais ce qui me frappe, et ce que Dieu me parle dans ce livre-là, c'est justement ça, de me retirer pour être en présence de Dieu, de développer mon intimité avec Dieu. Chose que je fuyais avant, chose que je trouvais le plus confrontant, le plus difficile, le plus tannant de la vie de Jésus qui se retire souvent puis qui soit en prière. Je trouvais ça, non, ça ne rentre pas dans la tête, pas capable. Mais là, le Dieu, il dit, c'est ça. C'est ça que je veux pour toi. Fait que merci, Jacqueline. Je suis en train de lire le livre très, 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 très lentement parce que je veux que ça me parle et que ça me rentre dedans. La vie de Jésus-Christ constitue la lumière parce qu'elle en est une de communion avec Dieu. Deuxièmement, ça c'est Sundar Singh. La vie de Jésus est la lumière parce que c'est la vie de l'Esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Par ses paroles, ses gestes, sa vie de service, toujours au service de Dieu et des humains, par la puissance sur la nature, sur la maladie, sur le monde spirituel, par son amour et sa compassion, par sa paix et sa joie dans les pires circonstances et les épreuves, c'est la vie de l'Esprit qui accomplissait toutes ces choses. C'est la manifestation de l'Esprit qui faisait toutes ces choses-là. Et ultimement, par sa mort à la croix, sa résurrection, qui sont les plus grandes évidences de la vie intérieure de dévotion à Dieu le Père et d'amour et de service envers les autres. Donc, la vie de Jésus est la lumière des hommes, parce qu'elle est une vie en relation directe avec Dieu. Alors que les ténèbres, c'est d'être coupé d'avec Dieu. On résume ça à ça. Fait comment nous, on peut être des lumières, frères et sœurs? Il y a juste une façon. C'est de suivre l'exemple de Jésus, d'être rempli de la présence glorieuse de Dieu par son esprit. C'est comme ça, seulement, qu'on peut être des lumières. Et puis, vous conviendrez avec moi qu'il y a toute une différence entre être une lumière et parler de la lumière. Oui, il faut en parler. Mais combien de fois on essaie de parler de la lumière sans être la lumière? Comprenez? Donc, la vie de Jésus-Christ est la lumière des hommes. On a vu qu'est-ce que les ténèbres, de quelle façon la vie de Jésus est la lumière. Puis, la réaction à cette lumière, bien, lorsqu'on étudiait Jean 9, quand on a vu le « Je suis la lumière du monde » que Jésus a déclaré, c'était le récit de l'homme né aveugle que Jésus a guéri. On a vu à ce moment-là, quand même, c'était frappant que les leaders religieux, à l'époque, refusaient de croire à ce miracle et cherchaient par tous les moyens de le discréditer. Ils ont tenté d'étouffer, d'éteindre la lumière. Dans son entretien avec Nicodème, Jésus dit, « Et voici en quoi consiste sa condamnation du monde, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui a fait le mal déteste la lumière et se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. » Voyez-vous? Dans la communion avec Dieu, c'est ça la lumière. C'est ça qui produit la vie qui est la lumière. Une vie dans la communion avec Dieu. Donc, le jugement de Dieu se fait parce que les hommes, non pas parce qu'ils sont dans les ténèbres, mais qu'ils refusent de venir à la lumière. Alors, on a vu par ces textes, Jean 9 et celui-là, qu'il y a trois façons de réagir à la lumière, soit de l'éviter, ils ne veulent pas venir à la lumière, de l'éviter, de la fuir, soit de tenter de l'étouffer, de l'éteindre, soit de venir à la lumière et de l'accueillir. Si on retourne dans Jean 1, on voit que la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres, bon, certaines versions disent « ne l'ont pas reçu », mais en fait, c'est pas une très bonne traduction. Ça serait mieux « ne l'ont pas étouffé, ne l'ont pas éteint, n'ont pas eu le dessus sur la lumière ». Les ténèbres n'ont pas pu vaincre la lumière. Et donc, la lumière, elle est le contraire des ténèbres. Mais les ténèbres ne sont pas égales en force à la lumière. Je répète, les ténèbres sont l'opposé de la lumière, mais ils ne sont absolument pas égales en force. C'est pourquoi l'espèce de yin et yang là, qu'on a, on voit dans les religions de l'Est, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas coexister. C'est toujours la lumière qui l'emporte sur les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. C'est vrai dans le monde physique et c'est vrai dans le monde spirituel. C'est un mensonge que de dire que les lumières et les ténèbres coexistent. Vous connaissez le yin et le yang, là, l'espèce de cercle là, que... Il y a comme un moitié qui est en courbe, là, c'est blanc, puis il y a un petit rond noir dedans, puis le noir avec un petit rond blanc dedans. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en chacun de nous, il coexiste en comme un part égal le bien et le mal. C'est faux. La Bible nous dit que non, la lumière chasse les ténèbres. Et on nous apprend ici que cette lumière, au verset 9, elle éclaire tout être humain par sa venue dans le monde. Tout être humain est éclairé par cette lumière, d'une façon ou d'une autre. Est-ce que la lumière a pénétré ton âme? Est-ce que tu la laisses pénétrer ton âme? Quelle est ta réaction à la lumière ce matin? Pour ceux qui l'avons accueilli, cette lumière-là, eh bien, c'est cette même vie qui découle de l'intimité avec Dieu par l'Esprit-Saint qui veut briller en nous et à travers nous, frères et sœurs. C'est vraiment ça. Qu'en dis-tu? Veux-tu te joindre à moi et t'engager à rechercher la présence glorieuse de Dieu, à développer davantage ton intimité avec lui? On a vu trois réactions. Et celle-ci est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Prions. Ô Père glorieux, roi de l'univers, merci pour Jésus. Merci Seigneur de nous interpeller ce matin par ton Fils Jésus. Seigneur, je te confesse que très longtemps j'ai évité de rechercher vraiment cette intimité, de me tenir dans ta présence glorieuse. Pardonne-moi Seigneur. Et si ce matin, c'est ton cas aussi, je t'invite à le confesser et à demander pardon. Seigneur Jésus, tu nous as montré la voie. Tu nous as montré la vie. La vie de l'Esprit. Seigneur, on veut t'implorer ta grâce pour venir faire cette œuvre en nous. Fais cette œuvre en moi, Seigneur. Amène-moi plus loin. Pardonne-moi de me satisfaire de peu, Seigneur, alors que tu as des trésors, comme on a entendu ce matin, tu as des trésors pour nous. Nous sommes héritiers du Fils de Dieu. Seigneur, trop souvent nous sommes découragés par les ténèbres, nous sommes abattus, nous sommes dans l'inaction, dans la paralysie de l'inaction, parce que, et c'est vrai Seigneur, les ténèbres sont épaisses. Mais au lieu de regarder aux ténèbres ce matin, on choisit de regarder à toi Seigneur Jésus, à toi ô Dieu. Oui, on choisit ta vie, ta lumière, Seigneur. Viens faire cette œuvre en nous ce matin pour ta gloire. Amen. Fait que ce matin, comme il a été dit, c'est le repas du Seigneur. Puis, est-ce que tu avais un autre chant, William, pour ça? Ben, je vais t'inviter, mais William a lancé une invitation tantôt, puis je vais alimenter un petit peu. C'est qu'on aimerait ça avoir, de voir qu'est-ce qui se passe dans vos vies. C'est sûr que dans les groupes croissants, c'est vraiment exprès pour ça, qu'on partage les choses, mais on peut le faire aussi dimanche. Mais je vous pose les questions suivantes. De quelles ténèbres Jésus t'a-t-il sauvé? Comment vis-tu l'intimité avec Dieu? De quelle façon grandis-tu dans la vie de l'esprit? Fait que je vous lance ça, des questions de réflexion qui peuvent alimenter ou tout autre partage que vous voulez faire pour la gloire de Dieu ou ce que vous avez vu Dieu à l'œuvre dans votre vie. Julien?
Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.